voix nue. Cette semaine, de lundi à vendredi, Victor Massé de l'Épinay rencontre Jacques Vendroux. Ce soir, la sortie hasardeuse d'Harald Schumacher.
Bonsoir Jacques Vendroux.
Bonsoir.
Alors hier soir, nous avons parlé de votre famille, de vos parents, de votre grand-père Jacques-Philippe, de votre grand-oncle Charles de Gaulle. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle de ce qui a été la passion de votre vie, le football. Le football qui, tous les dimanches et tous les jours, est joué tout autour du monde par des hommes et des femmes de tous les âges, de toutes les conditions. Le sport roi, et le football qui est aussi un spectacle qui dans quelques jours va réunir devant leur télévision des centaines de millions, voire des milliards de téléspectateurs. Ce football que vous avez vu évoluer aussi en presque 70 ans de passion, puisque vous avez 70 ans et c'est une passion de votre toute petite enfance. Est-ce que vous sauriez nous dire, en quelques mots, Jacques Vendroux, pourquoi vous aimez tant le football ?
J'ai toujours aimé le football parce que j'ai été élevé dans le football. Mon père et mon grand-père, on en a parlé hier, m'ont amené au football très tôt. Un dimanche, je voyais l'US Calais, l'autre dimanche, je voyais le Racing Club de Calais. Et quand mon bulletin était, allez, potable, j'allais le samedi voir le Racing Club de Lens. Soit avec mon grand-père, soit avec mon père, ou soit avec les deux. Et le must pour moi, c'était de partir. J'avais, je sais pas, 7-8 ans. C'était de partir avec mon père et mon grand-père. Je veux dire, il m'appartenait. Vous voyez, le temps du match, il m'appartenait. Donc on partait de Calais dans la voiture de mon grand-père, qui était une Aronde. Et on allait au stade Bollaert. On assistait au match.
Lens, c'était la première division à l'époque.
Ils étaient en Ligue 1. Et à l'époque, il y avait notamment un gardien de but extraordinaire qui s'appelait Arnold Sovinski, qui était un gardien très élégant. Il y avait Bernard Platzek, qui après j'ai retrouvé comme entraîneur à Calais. Bon, mais c'est des joueurs qui font partie un petit peu de mon ADN, parce que je leur demandais des autographes, etc. Et donc, ils m'ont pas inculqué le football, ils m'ont donné la passion du foot. Ils m'ont donné la passion du foot, la passion du vestiaire et la passion du sport collectif. Parce que là, on connaît Jacques Vendroux, commentateur de football. Je veux dire, mais j'adore le handball, j'adore le rugby, j'adore tous les sports collectifs. Parce que je répète, et c'est important. Moi, mon fils et ma fille, je les ai mis dans des sports collectifs tout de suite. Parce que je savais que ça allait beaucoup leur apporter. Et je dis pas que mes enfants sont mieux que les autres, mais je sais que ça leur a donné quelque chose de, en plus, que des garçons élevés dans des conditions un peu bourgeoises, la galère. Vous savez, quand mon fils partait jouer au football, je veux dire, à Gennevilliers, bon, je veux dire, il était heureux, le plus heureux des hommes. Mais je veux dire, bon, il allait pas jouer au Parc des Princes, ni au Stade de France.
Vous aimez aussi le tennis, la boxe, vous aimez tous les sports?
Non, j'aime les sports collectifs. J'adore le tennis, je l'ai commenté pendant des années, le tennis. J'adore la boxe. Mais moi, j'adore la boxe dans une autre vie. J'adore la boxe de Marcel Cerdan, j'adore la boxe de Carlos Monzon, j'adore la boxe de Jean-Claude Boutier, j'adore la boxe de Marvin Hagler. Enfin, la boxe de maintenant, elle est toujours intéressante, mais c'est une autre période, c'est un autre monde. Je veux dire, on peut pas le reproduire maintenant parce que c'était une période de la vie qui était là aussi, qui sortait de l'ordinaire. Faut pas qu'on joue les anciens combattants en disant c'est mieux avant. Non.
Mais alors pour le foot, justement, Jacques Vendroux, puisque on dit souvent que par essence, le supporter de foot ou l'amateur de football est nostalgique du football de sa jeunesse, de son adolescence, parce que on ne retrouvera jamais cette émotion, peut-être cette innocence qu'on avait. Vous, à vous lire, à vous entendre, on a l'impression que le football a été un sujet ou un vecteur d'enthousiasme toute votre vie, que vous avez toujours aimé le football tel qu'il se jouait, tel qu'on pouvait le voir, et tel que vous l'avez commenté.
Non mais est-ce que vous vous rendez compte de la chance que nous avons ou que j'ai ? Je suis payé pour aller en Coupe du Monde de football, je suis payé pour commenter des Coupes du Monde, je suis payé pour aller commenter des Jeux Olympiques, je suis payé pour aller commenter des matchs de Ligue des Champions, des matchs de championnat. Je présente régulièrement une émission consacrée au football, d'abord sur France Inter et maintenant sur France Info. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus au bon Dieu ? Enfin, je veux dire, je suis toujours un peu surpris qu'on me dise ta passion, tu fais un peu exalté, tu fais un peu agité. Je veux dire, mais attendez, d'abord, j'ai aucune raison de le faire. Et deuxièmement, il y a tellement, tellement peu de gens qui ont eu la chance de faire et de réaliser votre rêve. Moi, je voulais être Gordon Banks ou Thierry Roland. Je suis devenu un peu Thierry Roland. Allez, on va dire ça comme ça, parce que personne ne deviendra jamais Thierry Roland. Mais en tous les cas, j'ai fait le même métier que Thierry, qui m'a accueilli en 66, qui m'a lui aussi donné des bases pour que j'évolue positivement dans ce métier. Donc moi, c'est ma passion parce que c'est ma vie, parce que j'adore les joueurs de football, parce que je m'entends bien avec eux, parce que ça se passe bien, et le football de maintenant est pour moi le même football qu'il y a 10 ou 20 ans dans mon esprit et dans ma tête en tous les cas, parce que en fait on se fait notre propre film, on fait notre propre histoire. Il y a quelques jours, Marseille a disputé, je veux dire, la finale de l'Europa League contre l'Atlético de Madrid. Bon, Marseille est battu, ok, mais c'est un match extraordinaire à commenter. Je veux dire, c'est fabuleux de le commenter. Il y a eu la période de Saint-Étienne. Vous savez, c'est comme, vous vous souvenez forcément avec détail de votre première voiture, de votre première fiancée, de votre premier match que vous avez commenté. Donc évidemment, il y a des souvenirs qui reviennent. Mais je veux dire, après, les souvenirs sont merveilleux. Vous savez, Paul Verlaine a écrit une phrase fabuleuse. Paul Verlaine a dit « Les souvenirs sont nos meilleurs compagnons ». Et c'est la vérité. Vous n'avez pas le moral, vous êtes en voiture. Vous vous rappelez d'un match que vous avez commenté, vous vous rappelez modestement d'un arrêt que vous avez réalisé avec le Variété Club de France. Mais tout ça est lié au football. Mes enfants adorent le football. Mon fils adore le foot. Il est commentateur à Bein Sport. Il aime ce métier. Ma fille travaille à TF1. Elle adore ce métier, mais elle n'est pas dans le sport. Mais je l'ai emmenée jusqu'à l'âge de 17 ans au stade avec moi. Mon fils aussi. Donc j'ai essayé de transmettre ma passion à mes enfants. Il se trouve qu'ils l'ont accepté. La preuve, ils en ont fait leur métier. Donc, je veux dire, je ne l'ai pas forcé. J'ai la chance d'avoir transmis, je veux dire, mon exaltation, si on peut parler comme ça.
Alors, je reviens quand même sur l'évolution du jeu. On parlera peut-être du milieu et bien sûr du métier de journaliste et de commentateur. Mais sur le jeu, est-ce que... Alors, on dit beaucoup qu'évidemment, aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, que les joueurs sont beaucoup plus forts, que le jeu est plus physique. Un champion comme... les 10 derniers Ballons d'Or, c'est Messi et Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo en particulier, c'est plutôt un robot. Enfin, c'est comme ça qu'on peut le caricaturer, qu'un artiste, qu'un joueur qui a un peu de poésie. Tandis que dans les années 60-70, mais peut-être vous allez nous dire que c'est un lieu commun ou une idée reçue, Jacques Vendroux, on a l'impression que les joueurs étaient un petit peu plus artistes. Quand on pense à Cruyff, quand on pense à Platini, quand on pense à certains joueurs comme ça, est-ce que c'est une posture quand vous dites que vous ne préférez pas le foot d'avant, ou est-ce que vraiment vous trouvez que le football est toujours aussi beau ?
Le football est toujours aussi beau parce que c'est ma passion. Donc c'est quand vous êtes passionné par... je reviens à ce que je disais tout à l'heure, même si c'est récurrent, si vous êtes passionné par une voiture, si vous êtes tout simplement amoureux d'une femme, elle est toujours belle, elle est toujours très intelligente, elle est toujours attachante, elle est toujours séduisante. Pour moi, le football, c'est le même rapport. C'est-à-dire que je pars toujours avec plaisir commenter un match de football, je pars toujours avec plaisir. Je veux dire, mais c'est évidemment que c'est différent. Évidemment que Bruno Bellone, qui joue ailier gauche, n'a rien à voir avec Ronaldo. Évidemment que Platini n'a rien à voir avec Messi. Évidemment que Cruyff n'a rien à voir avec Georges Best. Je veux dire, on peut... Mais justement, si on commence à faire des comparaisons, là, on est mort. Il ne faut pas faire de comparaisons. Il faut vivre avec son temps. Il ne faut pas être un ancien combattant. Moi, j'ai été récemment, parce qu'on fait un feuilleton actuellement sur le 20e anniversaire de 98. J'ai été passé 2 heures avec... Zinedine Zidane à Madrid. Bon, d'abord, il nous a reçus merveilleusement bien. C'est-à-dire que ça veut dire que, quel que soit son talent, il est resté normal. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas une interview de Jacques Vendroux qui va changer sa vie. Parce que des interviews, il en fait tous les jours. Il m'a présenté Ronaldo C'est incroyable, il m'a présenté Ronaldo. J'ai parlé avec Ronaldo pendant un quart d'heure, mi-anglais, mi-espagnol, mi-français. C'était un moment historique. Et c'est des gens... faut pas oublier que... Alors moi, je veux bien qu'on critique le football. Moi, je veux bien qu'on dise il y a beaucoup d'argent, c'est démesuré, c'est exagéré, etc. Mais est-ce que vous savez ce que le football rapporte à tout le monde, à un pays en organisant la Coupe du Monde, à une ville en organisant, par exemple, une finale de Ligue des Champions, comme à Kiev il y a quelques jours, comme à Lyon il y a quelques jours. Je veux dire, il faut savoir aussi que, je veux dire, il y a des rentrées d'argent qui sont incroyables pour la société, pas uniquement pour les footballeurs, qu'il y a des emplois qui sont créés dans les clubs, dans les stades. Je veux dire, il faut pas diaboliser le football. Le football est une industrie qu'il faut prendre très au sérieux. Et évidemment que les joueurs évoluent, évidemment que Ronaldo, maintenant c'est un mannequin, sauf qu'il est beau comme un dieu, sauf que toutes les femmes le regardent quand même un petit peu, même si elles sont pas branchées, je veux dire, football. C'est vrai que il y a des joueurs qui sont sympas, il y a des joueurs qui sont désagréables, mais c'est comme dans tous les sports, c'est comme en tennis, c'est comme en basket, c'est comme en volley. Mais le football restera quoi qu'il arrive, et tant que j'en aurai la force, je prendrai toujours la défense du football. Parce que le football, n'oubliez pas que le football est une porte de sortie pour tout le monde, pour vous, pour moi. Le football est une porte de sortie pour n'importe quel Français. Un match de football à la télé vous fait oublier pendant 90 minutes vos soucis du quotidien. Une Coupe du Monde de football, les passionnés de foot, ou même si vous n'êtes pas tellement passionnés, vous regardez une Coupe du Monde, vous regardez un match de Ligue des Champions. Et pendant que vous êtes devant votre télé ou écoutez votre radio, ou en allant au stade, eh bien vous oubliez votre tracas. Eh bien ça n'a pas de prix. Parce que vous permettez aux gens de rêver pendant quelques minutes, même si à la fin des 90 minutes, ils reprennent le métro, ils retrouvent la réalité et les difficultés de la vie. Mais au moins, c'est le seul sport qui permet de faire oublier les galères du moment. Voilà.
Ce que vous dites me fait penser à cette phrase de Camus, bien connue, qui dit que c'est au stade de foot qu'il, c'est un des seuls endroits où il s'est senti innocent. Enfin, il le fait dire à un de ses personnages de la chute, dans les tribunes d'un stade de foot.
Mais on est tous innocents. On va dans un match de foot, on est tous innocents. On est tous, non seulement on est innocents, mais en plus on est des enfants et on reste des enfants.
Albert Camus, je ne sais pas si vous le saviez, Jacques Ventroux, qui était
gardien de but,
à Alger dans sa jeunesse. Alors gardien de but comme vous, ça vous est venu quand, comment gardien de but? C'est un poste vraiment particulier dans le foot.
C'est un poste extraordinaire.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous êtes à la fois responsable, vous êtes à la fois le sauveur, vous êtes quelquefois celui qui vous fait perdre, donc la galère, la vexation. Vous avez une certaine forme de solitude que j'aime. J'ai été gardien de but parce que quand je me suis inscrit au foot, je me suis mis dans les buts tout de suite. Parce qu'il y avait un mec à Calais que j'ai revu il y a quelques années, qui s'appelait Bernard Forcioli. C'était le gardien de but du Racing Club de Calais. Et donc, j'allais au stade, je le trouvais extraordinaire. Je trouvais que c'était le meilleur gardien de but du monde. Et Bernard, avec qui j'ai sympathisé évidemment par rapport à mon métier après, et surpris après, surtout après la fameuse finale de Calais en 2000 contre
FC Nantes,
où j'avais participé avec le club de Calais à réunir tous les anciens qui avaient joué... à Calais pendant les 30 ou 40 ans d'avant. Le gardien de but, il est responsable de tout. Il est responsable d'une victoire, comme il est responsable d'une défaite. Donc, le poste de gardien de but m'a appris au moins une chose. L'humilité. C'est-à-dire, vous gagnez, ok, c'est pas forcément grâce à vous. Vous pouvez faire gagner, mais personne vous le fait remarquer, parce qu'on se souvient des buteurs, et moi ça me va très bien. Mais c'est l'humilité surtout, c'est-à-dire que vous êtes, j'aime pas l'expression, mais vous êtes en fait gardien de but, vous êtes un peu un état dans l'état. Vous dépendez de l'équipe, sans dépendre de l'équipe, tout en dépendant de l'équipe. C'est-à-dire que déjà votre échauffement, déjà vos entraînements, je veux dire vous êtes seul. Vous avez quatre ou cinq mecs qui sont là pour vous faire travailler, physiquement, techniquement, etc. Parce que, avant de jouer avec le Variété Club de France, j'ai joué en DH, j'ai joué au Racing Club de Calais, après je suis venu habiter Paris, j'ai joué au PUC, j'ai joué au Racing, j'ai joué à l'Olympique Lyonnais, mais en gamin, enfin en junior, en cadet, etc. Et donc, c'est un poste à part, mais c'est un poste... moi, je suis... j'adore tous les gardiens. Et vous voyez que je, neurologiquement, je dois avoir un problème, parce que quand je commente un match, et quand un gardien de but fait un arrêt, j'ai l'impression que c'est moi.
Et quand il fait une boulette ?
J'ai l'impression que c'est moi aussi.
Alors justement, vous nous dites « j'adore tous les gardiens ». Je voudrais vous dire peut-être deux noms de gardiens, puisque dans votre livre de souvenirs, « Amoureux foot », que vous avez publié il y a quelques années, vous évoquez bien sûr Gordon Banks, on en a parlé. Il y a deux gardiens dont vous ne parlez pas, et j'aimerais que vous nous racontiez en quelques mots le souvenir que vous en avez et la perception que vous en avez encore aujourd'hui. C'est des gardiens des années 80 qui se sont dressés sur le chemin de l'équipe de France. Le premier, c'est Harald Schumacher. Est-ce que vous aimez Harald Schumacher ? Harald Schumacher, peut-être qu'il faut rappeler, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde 82 et une sortie extrêmement...
Hasardeuse.
Déjà, on voit que vous êtes indulgent, j'allais dire extrêmement violente. Vous dites hasardeuse.
Moi, je dis hasardeuse, voilà.
Donc, vous lui avez...
Non, je ne... D'abord, on revient au poste de gardien de but. Schumacher fait partie, à cette époque-là, des 4 ou 5 meilleurs gardiens de but du monde. Déjà, au départ. Professionnellement, il est nickel. Il fait très bien son métier. C'est un gardien titulaire indiscutable dans la sélection ouest-allemande.
Absolument, RFA.
Ouais. La RFA. Et cette histoire, elle est à la fois dramatique. Parce qu'il aurait pu tuer Battiston. Je crois qu'il ne s'est pas rendu compte de la sortie. Je crois qu'il a culbuté, enfin il a fracassé Patrick. Je crois qu'il ne s'est pas rendu compte de la gravité de la situation au moment précis. Il voulait sortir, empêcher que Battiston marque, etc. Enfin bon, il est rentré dans une folie incontrôlable et il a défoncé Patrick Battiston qui a eu beaucoup de temps à s'en remettre. Et très curieusement, quelques années plus tard, je l'ai rencontré avec Michel Platini. Et il a expliqué, c'est pour ça que je vous le dis, qu'il ne s'est pas rendu compte du choc. Il s'est rendu compte du choc et de la violence de ce télescopage, je veux dire, en voyant à la télévision, le lendemain et le surlendemain. Parce qu'il a dit, si moi je suis l'arbitre, je dois être expulsé. C'est pas l'abruti complet. C'est pas le mec bête et méchant qui a fait une agression. Il a fait une agression, il reconnaît cette agression, mais il s'en est pas rendu compte. Il s'est pas rendu compte parce qu'il défendait à l'époque les buts de l'équipe de RFA. Donc il s'est pas rendu compte. Et j'ai été au mariage de Battiston, quelques mois après, et j'avais les cheveux très longs à l'époque. Et Thierry Roland s'est amusé à faire cette blague que tout le monde connaît dans le football, en disant, en me parlant en allemand, dans l'église, merci à Harald d'être venu au mariage de Patrick.
Les boucles blondes, la petite moustache.
Voilà, donc il y en a quelques-uns qui ont plongé. Mais bon, après ça s'est atténué, parce qu'ils ont vu quand même que c'était une connerie, là on s'est parti rire.
Le deuxième gardien dont j'aimerais vous entendre parler, c'est un gardien qui est du bon côté cette fois, quand on est supporter de l'équipe de France, c'est Arconada. Arconada, c'est la finale de l'Euro 84, remportée par l'équipe de France de Michel Platini, qui fait la grosse boulette, qui laisse échapper un ballon sur un coup franc de Platini, qui nous donne la victoire.
Je suis heureux, parce que la France est championne d'Europe.
Vous étiez au parc, bien sûr.
J'ai commenté le match, oui. Et très malheureux, parce que je me suis pris pour Arconada pendant quelques minutes. Et j'ai trouvé ce garçon d'une grande dignité. C'est-à-dire qu'il avait fait perdre la nation. Il avait fait perdre son pays. Il était honteux. Il savait qu'il était ridicule sur ce but. Il savait que ça tournait dans le monde entier, en boucle, etc. Et ce jour-là, ce type-là, par honte, faut savoir que c'est un Basque. Faut savoir que c'est quelqu'un qui est très déterminé dans la vie, avec des idées bien, bien faites. Il a disparu de la circulation. Michel Platini a voulu il y a quelques années, et il l'a fait d'ailleurs, inviter tous les gardiens de but pour faire le tirage au sort de l'Euro 2016 à Nice. Le tirage au sort des tours préliminaires, hein, avant la qualification finale. Et on en parle, et je lui dis, Michel, il me dit, il me faut une idée qui sorte de l'ordinaire. Je lui dis, Michel, pourquoi tu n'invites pas tous les gardiens de but qui ont été champions d'Europe ? Il me dit, oui, c'est une bonne idée. Donc, il invite tout le monde. Mais il me dit, mais il y en a qui sont morts, il y en a qui sont un peu fatigués. Mais je lui dis, mais t'invites les grands noms, t'invites les grands gardiens de but de ces 40 dernières années. Et ben je dis oui, Banks,
Kopke,
il y avait Sepp Meyer, il les a tous invités.
Joël Bates.
Non, il n'y a pas Joël Bates, il n'avait pas pu venir. Il y avait Fabien Barthez, il y avait Zoff, il y avait Ray Clemens, qui était l'un des plus grands gardiens de but de l'époque à l'époque de Liverpool. Et donc il invite tout le monde. Et il appelle Arconada. Il lui dit, Louis, je veux que tu viennes. Il a refusé. Mais non, mais on va pas parler de ton but, on parle pas de ça. On veut simplement honorer tous les gardiens de but de la planète. Non, c'est fini. Et il va au stade, il paye sa place. Il ne demande rien à personne. Il ne veut plus entendre parler de football. Car il considère que c'est l'humiliation de sa vie. Pour vous dire tellement, il était excessif. C'est-à-dire qu'il n'a pris qu'un but. C'est pas grave de prendre un but. C'est pas grave de perdre en finale. Je veux dire, il y a les Stéphanois de l'Arqué ont perdu en finale. Kurkovic, il n'a pas pour autant mis un terme à sa carrière. Je veux dire, Mandanda a perdu il y a quelques jours la finale contre l'Athletic de Bilbao. Il ne va pas arrêter le football pour ça. Donc j'étais très malheureux. Très malheureux pour lui. Et je ne l'ai jamais vu. Et un jour, je vous dis, il y a un jour, j'irai le voir. Pour simplement lui serrer la main. C'est tout.
On sent que vous avez, Jacques Vendroux, une fascination pour les champions. Là, vous nous parlez d'Arconada, qui était un champion dans la défaite, mais les champions dans la victoire ou dans la défaite, c'est des caractères, des personnalités hors normes que vous avez côtoyées, des champions de football, mais aussi dans tous les domaines. Vous êtes ami avec Noah, vous êtes ami avec Serge Blanco, vous avez côtoyé Alain Prost, Bernard Hinault, enfin quelques champions dans toutes les disciplines. Qu'est-ce qui vous fascine chez ces hommes-là et peut-être chez ces femmes-là, si vous avez connu des grandes championnes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous d'inaccessible? Enfin, vous auriez aimé être un champion? Oui. Est-ce qu'il vous manquait quelque chose?
Oui, bien sûr. Je veux dire, celui
c'est
qui
pas
est...
que de la technique.
C'est pas. Non, mais je veux dire, c'est pas que de la technique, c'est de la volonté. Peut-être que j'étais un peu enfant gâté et que j'avais pas la volonté. De me surpasser, peut-être que j'avais pas la volonté d'en faire trop. De toute façon, quand on est un champion planétaire, on est forcément quelqu'un hors norme dans sa vie de tous les jours, dans ses entraînements, dans ses compétitions. Et ce qui est bien avec ces grands champions, c'est que, un, ils nous ont fait rêver par le passé, et deux, vous parlez de Bernard Hinault, d'Alain Prost, de Yannick Noah, de Michel Platini, d'Alain Giresse, de Zidane, de Thuram. Ils font partie de notre ADN, ils font partie de notre culture, ils font partie de nos souvenirs, ils font partie, et c'est très important, ils font partie du patrimoine de la France. C'est-à-dire que ces champions, je parlais là il n'y a pas longtemps avec Lilian Thuram et Elisa Razou, et je leur disais, ils me disent oui on en fait trop sur le 20e anniversaire de 98. Je lui dis non, faut pas parler comme ça, parce que vous appartenez plus. Le titre de champion du monde, il appartient au pays, il appartient à la France. Jacques Chirac était président de la République à l'époque, il vous a reçu, il a assisté tous les matchs. C'est devenu un événement incroyablement historique pour les Français. Et vous parlez de Platini, de Giresse, de Joël Bats, de Bernard Lacombe. Même si c'est en 84, même si c'est très loin, les gens s'en souviennent encore. Parce qu'il y a des gens, Guy Dru, champion olympique du 110 mètres haies, fait partie de l'ADN des Français. Les Français ont besoin d'avoir des repères. Les Français ont besoin d'avoir des idoles. Moi, j'ai des idoles. Eh bien, les Français ont des idoles, ont des champions, ont des posters. Les gamins de maintenant, ils ont des posters dans leur chambre. Il faut le préserver, ça. Il faut le préserver. Il faut préserver le rêve. Et ces champions nous donnent du rêve, nous donnent de la satisfaction. Et donc, ce sont des gens hors normes. On n'est pas champion par hasard. C'est pas vrai. On se réveille pas un matin en disant « Je vais être le meilleur gardien de but du monde ». On se réveille pas un matin en disant « Je vais gagner le 110 mètres à Montréal ». On se réveille pas un matin en disant « Je suis Carlos Monzon, le meilleur poids moyen de l'histoire de la boxe et je vais battre tout le monde ». C'est pas vrai. Ça se construit. Il faut de l'humilité et il faut surtout de la volonté et des sommes d'entraînement dont personne ne s'imagine. Tout le monde croit qu'on devient Platini en un quart d'heure. Tout le monde croit qu'on devient Ino en 10 minutes. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dès l'âge de 10 ans, jusqu'à l'avènement du succès. Des heures sur un vélo, des heures sur un ring, des heures sur un terrain de football. C'est comme les, vous savez, c'est comme un chercheur. C'est comme un chirurgien. Vous savez que les études en médecine sont les plus longues de l'histoire
des cursus universitaires en France.
Des cursus universitaires, vous avez raison de le dire. Mais bon, à la sortie, c'est des grands chirurgiens, ils sauvent des vies, c'est quand même pas à la portée de tout le monde, je viens de sauver des vies. C'est quand même pas à la portée de tout le monde d'être un pilote d'un Boeing 747. Je veux dire, donc ils arrivent, au même titre que ces gens-là, ils arrivent au summum.
Alors vous vouliez être Gordon Banks quand vous étiez petit, ou Thierry Roland. Demain, nous parlerons de Thierry Roland, de votre arrivée à l'ORTF et de vos premiers pas dans ces belles maisons, la maison de la radio et Cognac Jet. Merci Jacques Vendroux.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Victor Massé de l'Épinay avec Jacques Vendroux. À voix nue, réalisation Anne Pérez, prise de son Yves Lehorse, coordination Claire Poinsignon. À voix nue, s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.